Les apôtres avaient été ébranlés. Les apôtres avaient été surpris. Les apôtres avaient été troublés. Voilà que Jésus, qui avait manifesté sa puissance au début de sa prédication, il parlait avec autorité, on en était étonné, il chassait les démons, il guérissait les malades, il purifiait les lépreux. Voilà que Jésus avait annoncé qu'il devait monter à Jérusalem, y être livré, donné aux Romains, crucifié, mourir sur une croix. Et puis il avait ajouté une parole qu'on ne comprenait pas, qu'il serait réveillé d'entre les morts le troisième jour. Mais il y a quelque chose qui est complètement surprenant, c'était pas leur plan. Eux, ils avaient imaginé, les apôtres, que Jésus était le Messie, ils l'avaient reconnu, tu es le Fils du Dieu vivant, tu es le Messie. Il allait être le Sauveur, mais le Sauveur tel qu'il l'imaginait, un chef politique, un chef militaire, qui allait enfin chasser les Romains du pays. Voilà, l'occupant allait être chassé, on allait rétablir un roi en Israël, on allait retrouver notre indépendance, et on espérait que par cette manifestation de force, les autres nations, elles allaient reconnaître que vraiment, le Dieu d'Israël, il est plus grand que tous les dieux. Et voilà que là, ils entendent celui qu'ils ont reconnu comme leur chef dire « Je vais aller mourir à Jérusalem ». Non mais ça va pas du tout, c'est pas du tout ce qu'on voulait. Et puis en plus, quand on s'est choisi un maître en Israël, c'est pour vivre comme lui. Et il annonce qu'il va être crucifié. Je suis pas sûr que j'ai très envie d'être crucifié. Parce que c'est quand même l'un des supplices les plus redoutables. Être cloué sur une croix et mourir par étouffement et d'épuisement. Allez, non, si je peux éviter ça, ce serait mieux. Qu'est-ce qui t'arrive? Et du coup, ils pouvaient se demander, mais est-ce que c'est vraiment lui le Messie? Est-ce qu'on s'est pas trompé? Ou bien il a une mauvaise passe? Ou il a perdu la raison peut-être? Et Jésus, face à leur trouble, va leur offrir en ce jour une consolation. Jésus, face à ce trouble, va leur offrir une consolation. C'est important, une consolation. Vous avez pu, les enfants, faire une expérience, vous savez, quand on est attristé, on a été ébranlé ou qu'on s'est fait mal. C'est tellement important quand il y a quelqu'un qui vient nous consoler, quelqu'un qui vient nous rassurer, quelqu'un qui nous prend dans ses bras, qui nous embrasse. Imaginez, peut-être, vous avez été insulté, on s'est moqué de vous dans la cour. Vous rentrez, vous n'avez plus forcément très confiance en vous. Et il y a quelqu'un là qui m'accueille, qui me regarde avec bienveillance et qui me dit « Non mais tu peux avoir confiance en toi, moi j'ai confiance en toi. » Qui me montre que je suis aimable, même plus que je suis aimé. C'est important, une consolation. Et Jésus va donner en ce jour une consolation à ses apôtres. Il va d'abord leur montrer sa puissance et la beauté de son humanité remplie de l'Esprit Saint. Vous voyez, les apôtres, ils avaient l'habitude de voir Jésus comme nous nous voyons. Il faut se souvenir, quand ils voient Jésus, il n'y a pas une auréole qui brille autour de sa tête de façon ordinaire. Mais là, tout d'un coup, son visage devient autre, son visage devient étincelant, ses vêtements même sont tout rayonnants. Voilà qu'ils ont, ils voient la puissance et la beauté de l'humanité de Jésus dans l'Esprit Saint. Et donc on se dit, mais si ça c'est lui, alors sa parole, elle ne venait pas d'un coup de blouse ou d'un manque de vitamines. Souvenez-vous, j'allais dire, là on est en hiver, donc c'est peut-être facile de s'en souvenir, quand il fait un peu froid, imaginez le ciel est un peu nuageux, et puis tout d'un coup, les nuages s'écartent, et vous voyez que le soleil qui brille, ça vous est peut-être déjà arrivé de vous mettre devant le soleil, alors vous ne pouvez pas le regarder parce qu'il est trop étincelant, mais les yeux fermés, vous laissez votre visage et vous laissez votre corps être illuminé par le soleil, réchauffé par le soleil. Il fait peut-être froid alentour, mais voilà que cette lumière qui tombe sur vous, vous réchauffe. On sent en nous une douce chaleur. Alors ici, ce n'est pas le soleil qui provoque cela, mais c'est la personne de Jésus. Et cela ne réchauffe pas seulement le visage, mais ça réchauffe aussi le cœur et l'âme. Jésus, par son humanité, remplie de l'Esprit Saint, étincelante, vient réchauffer le cœur et l'âme des apôtres. Et puis, on voit apparaître à côté de lui deux personnages très importants, Moïse et Élie, qui avaient quitté cette terre il y a bien longtemps. Moïse, il avait foulé cette terre 13 siècles avant la naissance de Jésus. Élie, il avait foulé cette terre 8 siècles avant la naissance de Jésus. Et voilà qu'il discute avec lui de son départ à Jérusalem. Quand Jésus parle de mourir et d'être réveillé d'entre les morts, ce n'était pas un rêve de Jésus. Jésus connaît la réalité d'au-delà de la mort. On le voit parler avec Moïse et avec Élie. Voilà que Moïse et Élie, ces six grandes figures, s'ils parlent avec Jésus de ce départ à Jérusalem, c'est que c'est bien du sérieux, c'est un plan céleste. Et puis, ils voient donc Jésus, Moïse et Élie dans la gloire. Et ça, c'est également un signe important qui est donné à chacun d'entre nous, qui va nous permettre de dire, mais qu'est-ce que c'est nous mettre sur la voie, qu'est-ce que ça peut être réveillé d'entre les morts, ressuscité d'entre les morts? Voilà qu'en voyant l'humanité étincelante de Jésus, nous en avons une révélation. La mort n'est pas un anéantissement, mais la mort avec Jésus est un chemin vers la vie, et la vie d'une humanité en plénitude, d'une humanité rayonnante. Vous savez que nous, on fait souvent l'expérience d'une humanité qui est fragile et qui est blessée. On peut être malade, on vieillit, on peut avoir un accident. Et voilà qu'il y a une humanité là qui est pleinement vivante, et c'est pas vivante tout seul, c'est vivante en communion avec ceux qui sont morts et qui sont amis de Dieu. Jésus parle, communique, échange avec Moïse et avec Élie. Il nous est donné comme si on avait levé un coin du mystère du ciel. Il nous est donné de voir un coin du ciel. Il nous est donné de le contempler. Voilà la gloire qui nous est promise. Et enfin, il y a une espèce de nuée qui vient recouvrir les disciples. Cette nuée, en Israël, on en avait entendu parler. Lorsque la présence de Dieu descendait dans le temple de Jérusalem, elle se manifestait par cette nuée, parce que comment voir Dieu? Il est invisible. La nuée rendait manifeste la présence de Dieu, et de cette nuée, une voix se fait entendre. La voix qu'on avait entendue lorsque Jésus avait été baptisé dans le Jourdain par Jean-Baptiste, cette voix qui avait dit autrefois, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en lui je mets tout mon amour. » Cette voix se fait entendre aujourd'hui en disant, « Celui-ci est mon Fils, celui que j'ai choisi, mon élu. Écoutez-le. Celui-ci est mon Fils, c'est bien mon Fils, vous ne vous trompez pas. » Pierre ne s'est pas trompé quand il avait reconnu, « Tu es le Fils du Dieu vivant. » Et le Père révèle, « Il est l'élu, celui que j'ai choisi, permettant aux disciples qui connaissent les Écritures de se souvenir de ce personnage mystérieux que Isaïe, dont Isaïe y avait parlé, un serviteur de Dieu, le choisi de Dieu, mais qui serait un serviteur souffrant, souffrant parce qu'il porterait et qu'il enlèverait les péchés du monde. On croirait par sa mort qu'il était rejeté par Dieu. Non, c'est notre propre péché qu'il porte pour l'enlever. Alors Jésus, le Messie, c'est aussi lui, ce serviteur souffrant qui porte et qui enlève le péché du monde. Et la parole du Père se termine en disant, écoutez-le, écoutez-le, parce que c'est vrai, c'était surprenant, c'est vrai, ça peut nous faire un peu peur. Écoutez-le, moi le Dieu de vie, moi le Dieu qui vous a fait sortir de l'esclavage du pays d'Égypte et qui vous conduit jusqu'à ce jour, c'est lui, mon Fils bien-aimé, dans sa chair, que je vous envoie pour vous mener jusqu'au ciel. Écoutez-le, il ne divague pas, il est le chemin de la vie. Et voilà que les disciples auront peut-être du mal encore à comprendre tout ce que Jésus dit, mais qu'ils vont demeurer dans la confiance. Alors cette consolation que les apôtres ont reçue, parfois ça nous fait poser quand même une question pour notre vie spirituelle. Là, ça fait un moment que je parle, donc il y a peut-être un petit peu de fatigue qui se fait entendre. Vous êtes toujours vivants ? Oui, et ici, ils sont bien vivants. Ici, un petit peu moins. Bon. Ça nous pose une question dans notre vie spirituelle. C'est qu'on se dit, ils ont eu de la chance quand même, les apôtres. Ils ont eu la transfiguration. Et je peux me demander, mais et moi, est-ce que je pourrais pas avoir cette expérience de la présence de Dieu? Est-ce que je pourrais pas l'avoir? Eh bien, il y a deux choses à connaître pour notre vie spirituelle. Si je n'ai, dans mon histoire, jamais connu la tendresse de Dieu, eh bien, je peux le demander dans ma prière. Je peux dire au Seigneur, ce n'est pas tenter Dieu, ce n'est pas le mettre à l'épreuve, que de dire, Seigneur, comme tu as fait la grâce aux apôtres sur la montagne, de leur manifester ta gloire, je te demande de me manifester ta tendresse. Que je sois saisi par ta tendresse, comme le fut aussi saint Paul qui le dit, j'ai été saisi par Dieu, et du coup, je cours pour le saisir à mon tour. Seigneur, je te le demande, manifeste-moi ta tendresse. Et cette prière, je vous invite à la faire avec persévérance. Il faut sortir parfois d'une prière que j'appelle un peu trop polie. Seigneur, si tu as le temps, si tu n'as pas d'autre chose à faire, manifeste-moi ta tendresse, mais sinon c'est pas très grave. Non, Seigneur, je ne peux pas vivre si je ne connais pas ta tendresse. Comme je ne peux pas vivre si je ne dors pas, je ne peux pas vivre si je ne bois pas, je ne peux pas vivre si je ne mange pas, je ne peux pas vivre si je ne respire pas d'oxygène. Seigneur, je ne peux pas vivre si je n'ai pas fait l'expérience de ta tendresse. Manifeste-la-moi, je te le demande. Au nom de ce que tu as déjà fait, Seigneur. Cette prière, nous pouvons la faire. Mais peut-être que, quand vous regardez votre histoire, vous vous dites, il y a vraiment tel moment, même si c'était un moment il y a longtemps, même si c'était un moment dans l'enfance, où vous avez connu cette tendresse de Dieu, cette clarté de la présence de Dieu, vous ne pouvez pas dire, le Seigneur n'était pas là, ou je ne sais pas, vous le savez, le Seigneur était là. Le Seigneur était là. Alors vous dire, ah oui, mais c'était il y a longtemps. Alors dans votre prière, vous allez demander ceci. Ce que vous avez vécu, ça a été mis comme un rocher dans le flot de votre histoire. Un rocher là, qui sort du flot de l'histoire pour que vous puissiez prendre des forces dessus, revenir dessus. Et faites-en mémoire. Souvenez-vous de ce que vous avez reçu ce jour-là. Peut-être que ça a été en plusieurs étapes. Souvenez-vous de ces moments où la présence de Dieu, la tendresse de Dieu, sa vie a été manifeste pour vous. Faites-le remonter dans votre mémoire en demandant à l'Esprit Saint de le vivifier. Les dons de Dieu ne sont pas faits pour être perdus, ils sont faits pour être vivifiés. Les dons de Dieu ont une force particulière. Nous sommes appelés à faire vivre cette force particulière. Et donc, peut-être qu'il y a un petit exercice pour nous, pour cette semaine, en particulier si nous avons vécu ces moments de tendresse de Dieu, eh bien d'en faire mémoire, de prendre un moment, ou peut-être dans notre prière quotidienne, de dire, je vais faire mémoire d'un de ces moments. C'est peut-être une retraite de préparation à un sacrement, c'est peut-être en visitant telle église, c'est peut-être parfois en étant saisi par tel chant, c'est peut-être en lisant telle parole de l'Écriture, j'ai été saisi. Avec la grâce de l'Esprit Saint, replongez-vous sur ce moment, afin que, à nouveau, la lumière de Dieu vienne toucher et transformer votre cœur. Seigneur Jésus, en ce deuxième dimanche du temps de carême, après avoir vu la semaine dernière comment tu étais vainqueur de la tentation et comment tu nous offrais de participer à ta victoire, aujourd'hui nous voulons te suivre. Nous voulons te suivre en prenant notre croix. Car te suivre, toi, ce n'est pas chérir la mort, mais devenir libre pour aimer comme tu aimes et voir notre humanité transfigurée comme la tienne. Seigneur, entends notre prière, si jamais nous n'avons encore connu ta tendresse, et vivifie en nous la mémoire de ta tendresse, si nous l'avons déjà vécue. Donne-nous de la goûter encore, vivifiée par ton Esprit Saint. Amen.